Acte des Apôtres, chapitre 5. Ananias et Saphira, versets 1 à 11.
Lecture de la parole. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une possession et, de connivence avec sa femme, mit de côté une partie du prix et, en apportant une partie, la mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Si elle fût restée non vendue, ne te demeurait-elle pas? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes hommes se levant le couvrirent, et l'ayant emporté dehors l'ensevelirent. Et il arriva, environ 3 heures après, que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui répondit, « Dis-moi, « avez-vous donné le champ pourtant ?» Et elle dit « Oui, pourtant. » Et Pierre lui dit « Comment êtes-vous convenu entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » Et à l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes hommes entrant la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent dehors, et l'ensevelirent auprès de son mari, et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses.
Lecture de l'étude. Jusqu'ici, nous avons vu la formation de l'Église et son développement dans toute sa fraîcheur. L'Esprit Saint, agissant librement, empêchait toute manifestation du cœur naturel. Ce qui vient de Dieu est toujours pur et porte ses caractères divins, contrastant avec ceux de l'homme naturel. Mais ce que Dieu a confié à la responsabilité de l'homme se ternit bientôt, se gâte et se dénature par l'activité du cœur naturel, incorrigible et désespérément mauvais, que le croyant porte toujours en lui. Au début de l'histoire de l'humanité, Dieu créa Adam parfait, innocent, mais responsable de lui obéir sur un point seulement. Il ne le fit pas et tomba. Après le déluge, Dieu recommença avec un monde nouveau et en confia le gouvernement à Noé, qui se déshonora. La même déchéance eut lieu avec la sacrificature par Élie. 1 Samuel chapitre 2, avec la royauté par Saül et toute la famille de David. La seule exception à cette règle humiliante aurait dû se produire avec l'Église, car, depuis l'œuvre accomplie à la croix, Dieu a agi tout autrement envers les hommes que dans les économies précédentes, en ce qu'il a donné aux croyants la vie divine, manifestée en Christ, et le Saint-Esprit, puissance de cette vie, pour agir en chacun d'eux. Ainsi, la mauvaise nature qui habite en eux ne doit plus les caractériser, puisqu'ils ont le pouvoir et le devoir de se tenir pour morts au péché, afin de manifester la vie de Christ. Mais l'état de l'Église en ruine nous dit ce qui en est advenu durant les 19 siècles de son existence, où l'on ne reconnaît que fort peu ce qu'il a distingué dans ses 4 premiers chapitres des Actes. À peine un faible résidu emporte-t-il quelques caractères dont le Seigneur seul peut apprécier la réalité. Le chapitre 5 signale le début du mal, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une possession et, de connivence avec sa femme, mit de côté une partie du prix et, en apportant une partie, la mit aux pieds des apôtres, versets 1 et 2. Entraîné par le mouvement puissant que produisait l'Esprit-Saint sur les croyants, Ananias et sa femme ne voulurent pas rester en arrière, mais le sacrifice qu'ils faisaient dépassait leur état spirituel. Il arrive souvent que l'on imite les bonnes actions d'autrui sans que le mouvement provienne d'un cœur entièrement soumis au Seigneur. La chair non jugée veut avoir sa part de gloire en conservant pour elle ce qu'aux yeux des autres elle paraît avoir sacrifié. Mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Hébreux 4, verset 13. C'est ce dont Ananias et Saphira firent l'expérience. Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit-Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Si elle fût restée non vendue, ne te demeurait-elle pas? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Versets 3 et 4. La présence manifeste du Saint-Esprit, déployant une si grande puissance au milieu des disciples, constituait la gravité de ce mensonge. L'amour de l'argent, actif dans le cœur d'Ananias et de Saphira, n'avait pas été jugé et les avait soustraits à l'influence divine de l'Esprit-Saint, en les poussant à préméditer cet acte, chose très grave aussi, qui montre que, froidement, ils décidèrent ensemble de mentir à l'Esprit-Saint, ce qui était mentir à Dieu. Tout péché est un acte très grave, puisqu'il offense Dieu. Il est bon de s'en souvenir, parce que nous sommes habiles à justifier nos fautes. Il faut avoir soin de juger toute pensée mauvaise dès qu'elle apparaît. Sinon, nous nous familiarisons avec elle et perdons la conscience de la gravité du mal. La convoitise, ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1, verset 15. C'est ce qui arriva à Judas. Ananias et Saphira en sont aussi un exemple frappant. Nous voyons dans ce que Pierre dit à Ananias qu'il était parfaitement libre de vendre sa propriété ou de la garder et, vendu, d'en conserver la valeur en tout ou en partie. La parole de Dieu qui dirige la vie divine chez le croyant n'est pas une loi imposée. La vie du Seigneur, ses paroles, font autorité. Personne n'avait dit à ses croyants de vendre leurs biens et de les distribuer. L'amour actif, dans la fraîcheur et la puissance de la vie divine, les portait à le faire pour secourir leurs frères dans le besoin. Chez Ananias et sa femme, cet amour s'affaiblissait par celui de l'argent. Leur motif n'était pas pur et leur acte ne pouvait être bon. Dans ce temps-là où la présence de Dieu par l'Esprit-Saint était si manifeste, un tel péché ne pouvait recevoir le pardon sous le gouvernement de Dieu. Aussi, en entendant Pierre, Ananias tomba mort, et une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes hommes, se levant, le couvrirent et l'ayant emporté dehors, l'ensevelirent. Versets 5 et 6. Si Dieu a manifesté sa grâce et son amour en nous sauvant et en faisant de nous ses enfants bien-aimés, il est toujours le Dieu juste et saint qui a les yeux trop purs pour voir le mal. Nous sommes exhortés à le servir avec révérence et avec crainte, car est-il dit notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12, versets 28 et 29.
C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte, car aussi notre Dieu est un feu consumant.
Il faisait trembler et fumer la montagne de Sinaï. Il accompagnait son peuple dans le désert, mais aussi il s'est révélé à nous comme Père. Mais il ne peut supporter le péché. Et il arriva environ 3 heures après que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui répondit, « Dis-moi, avez-vous donné le champ pourtant ? » Et elle dit, « Oui, pourtant. » Et Pierre lui dit, « Comment êtes-vous convenus entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » Et à l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes hommes, entrant, la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari, versets 7 à 10. À Saphira, Pierre dit, « Comment êtes-vous convenus entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur ? » Et à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit Saint ?» Ce péché avait deux caractères intimement liés, mentir à l'Esprit Saint auquel on ne peut rien cacher, et en même temps le tenter en essayant de voir s'il ignorerait leur acte. On ne doit pas tenter Dieu, le mettre à l'épreuve, pour savoir s'il est fidèle dans ce qu'il dit. On doit le croire sans preuve. C'est ce que Satan voulut faire avec le Seigneur lorsqu'il l'engageait à se jeter depuis le faîte du temple, puisqu'il est dit au psaume 91, versets 11 et 12, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, ce qui signifie, tu ne feras aucune chose qui aurait pour but de vérifier si ce que Dieu dit est vrai. On doit croire ce que Dieu dit parce que c'est lui qui le dit. Si Dieu avait dit à Jésus de se jeter du haut du temple, il aurait obéi, et Dieu l'aurait protégé, comme dit le psaume. En obéissant à Dieu, nous sommes gardés. Lorsque nous désobéissons, Dieu doit nous ramener dans le chemin de l'obéissance en nous faisant juger notre propre volonté, à moins que, comme pour Ananias et Saphira, le péché commis soit à la mort. 1 Jean 5, versets 16 à 17.
Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne soit pas à la mort, il demandera pour lui, et il lui donnera la vie, savoir à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Il y a un péché à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il demande. Toute iniquité est péché, et il y a tel péché qui n'est pas à la mort.
C'est celui que peut accomplir un croyant et si grave qu'ils doivent mourir sous le gouvernement de Dieu. Ananias et Saphira en sont le premier exemple dans l'Église. Il s'agit de la mort du corps comme discipline et non du salut de l'âme. Et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses, verset 11. Le Saint-Esprit agissait non seulement pour former l'assemblée, mais aussi pour la purifier du mal qui pouvait s'y introduire. La manifestation de sa puissance produisait de la crainte chez tous. La crainte de Dieu devrait suffire pour préserver du mal sans qu'il y ait besoin de la produire par l'exécution du jugement. On voit dans les psaumes et les proverbes tout ce qui se rattache à la crainte de l'Éternel, surtout en fait de bénédiction. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, c'est craindre de lui déplaire en lui désobéissant. C'est une crainte qui découle de l'amour dont nous sommes aimés de Dieu, que nous aimons en retour. Plus nous aimons quelqu'un, plus nous éviterons de lui déplaire. Puissance miraculeuse des apôtres, versets 12 à 16.
Lecture de la parole. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres, et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mais, d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur, une multitude, tant d'hommes que de femmes, de sorte qu'on apportait les infirmes dehors dans les rues, et qu'on les mettait sur de petits lits et sur des couchettes, afin que, quand Pierre viendrait, au moins son ombre passât sur quelqu'un d'eux. Et la multitude aussi des villes d'alentour s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, et ils étaient tous guéris.
Lecture de l'étude. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres, verset 12. La parole que les apôtres prêchaient était confirmée par des signes de puissance. C'est dans ce but que les miracles se produisaient. Ces manifestations de puissance prédisposaient les cœurs à recevoir l'Évangile, mais la parole seule opérait en eux, alors comme aujourd'hui. Les impressions les plus fortes ne servent à rien si la parole de Dieu n'exerce pas la conscience. Ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, mais, d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur, une multitude tant d'hommes que de femmes, versets 12 à 14. La puissance du Saint-Esprit faisait éprouver la présence de Dieu au milieu de ces nouveaux convertis, mais tenait à l'écart ceux qui n'étaient que spectateurs d'une telle scène, tout en produisant chez le peuple l'admiration et la louange. Il est possible que ceux qualifiés d'entre les autres fussent les chefs religieux, distingués du peuple qui les louait hautement. Mais les croyants, en qui la parole avait opéré, constituaient une autre classe. Ils se joignaient nombreux, non aux apôtres, mais au Seigneur, sujet de la prédication. On reconnaissait son autorité autant que sa grâce. Il est le centre d'attraction de ceux qui croient. Là où l'œuvre est considérée comme faite par lui, il est dit « Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. » Chapitre 2, verset 47. Ici, et comme au chapitre 11, versets 23 et 24, où l'on voit le travail des apôtres, les croyants se tournent vers le Seigneur et non vers ses serviteurs.
Chapitre 11, versets 23 et 24. Lequel, y étant arrivé et ayant vu la grâce de Dieu, se réjouit, et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur, car il était homme de bien et plein de l'Esprit Saint et de foi, et une grande foule fut ajoutée au Seigneur.
Désormais, le Seigneur est tout pour eux. Ils vivent de lui, pour lui. Ils jouissent de sa communion dans le rassemblement des siens. C'est lui qui les y attire, et dans le ciel ils seront avec lui. Si grande était la puissance de l'Esprit en Pierre, qu'on apportait les infirmes dans les rues sur des petits lits, afin que, quand Pierre viendrait, au moins son ombre passât sur quelqu'un d'eux. Et la multitude aussi des villes d'alentour s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes. Et ils étaient tous guéris, versets 15 à 16. C'est ce qui est appelé en Hébreux 6, verset 5, les miracles du siècle à venir. Lorsque le Seigneur établira son royaume en gloire, le Saint-Esprit agira avec une grande puissance pour délivrer les hommes des conséquences du péché et du pouvoir de l'ennemi. On en voyait alors un exemple. Cette activité de l'Esprit-Saint, opérant sur la terre pour le règne de Christ, est appelée la pluie de la dernière saison. Osée 6, verset 3.
Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre.
Zacharie 10, verset 1.
Demandez à l'Éternel de la pluie au temps de la pluie de la dernière saison. L'Éternel fera des éclairs, et il leur donnera des ondées de pluie, à chacun de l'herbe dans son champ.
Celle de la première saison a eu lieu à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit vint sur les croyants seulement, tandis que, lors de l'établissement du règne de Christ, il viendra pour tous et sera répandu sur toute chair pour la bénédiction millénaire. Joël 2, versets 28-29.
Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions, et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit.
En attendant, la puissante action de l'esprit par les apôtres était un témoignage rendu au Christ que les Juifs avaient rejeté et à la parole que les apôtres prêchaient. Cette action miraculeuse du Saint-Esprit est tout autre que celle qu'il opère dans l'Église jusqu'à la venue du Seigneur. Elle a pour but de l'édifier en occupant les croyants de la personne du Seigneur au moyen de sa parole et en faisant annoncer l'Évangile au monde. L'action miraculeuse du Saint-Esprit a cessé de s'exercer dans l'Église dès le moment où elle fut établie. Si elle s'exerçait encore, ce serait au milieu des païens. Délivrance miraculeuse des apôtres, versets 17 à 32.
Lecture de la parole. Et le souverain sacrificateur se leva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, savoir la secte des Sadducéens. Et ils furent remplis de jalousie et mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison et les conduisit dehors et dit « Allez, et, vous tenant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent vers le point du jour dans le temple et ils enseignaient. Mais le souverain sacrificateur étant venu et ceux qui étaient avec lui, ils assemblèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent à la prison pour les faire amener. Mais les huissiers, y étant arrivés, ne les trouvèrent pas dans la prison, et s'en retournant, ils le rapportèrent, disant « Nous avons trouvé la prison fermée, avec toute sûreté, et les gardes se tenant aux portes. Mais, ayant ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Et quand le sacrificateur et le commandant du temple et les principaux sacrificateurs eurent entendu ces paroles, ils furent en perplexité à leur sujet, ne sachant ce que cela deviendrait. Or quelqu'un arriva et leur rapporta, « Voilà, les hommes que vous avez mis en prison sont au temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant avec les huissiers s'en alla et les amena sans violence, car ils craignaient d'être lapidés par le peuple. Et les ayant amenés, ils les présentèrent devant le Sanhédrin. Et le souverain sacrificateur les interrogea, disant, « Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire revenir sur nous le sang de cet homme. » Et Pierre et les apôtres répondant dirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir, le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Et nous, nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »
Lecture de l'étude. Voyant que le peuple louait hautement les apôtres et que leur influence s'étendait aux villes d'alentour d'où l'on apportait les infirmes à Jérusalem, le souverain sacrificateur et les sadducéens qui l'entouraient éprouvèrent une violente jalousie et mirent les apôtres en prison. Ils voyaient diminuer leur prestige chez le peuple et voulaient à tout prix le conserver. Mais, comme nous l'avons déjà remarqué, leur rage se heurte à la puissance de Dieu qui est tout entière du côté des apôtres. Un ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison et les conduisit dehors et dit « Allez, et, vous tenant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent vers le point du jour dans le temple et ils enseignaient, versets 17 à 21. Quel défi jeter publiquement à la prétendue autorité des chefs religieux. Leurs yeux auraient dû s'ouvrir afin de comprendre qu'il leur était inutile de lutter avec Dieu. Mais le prince de ce siècle les avait aveuglés et les engageait toujours plus loin dans leur vaine résistance à celui qui l'a vaincu à la croix et qui agissait avec puissance pour délivrer ceux que le diable tenait sous son pouvoir en les conduisant infailliblement vers la mort éternelle. Les apôtres devaient annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie, leur dit l'ange en les mettant en liberté. Merveilleux message que celui qui fait connaître les paroles d'une vie qui a triomphé de la mort, de Satan et du monde, en Christ ressuscité, d'une vie éternelle que nous a donnée le Christ Jésus, vie que l'Évangile fait luire avec l'incorruptibilité au milieu d'une scène de mort, vie que l'on obtient par la foi, de Timothée 1, versets 1 et 10.
Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus, mais qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile.
Le souverain sacrificateur et son entourage, ignorant ce qui s'était passé pendant la nuit, assemblèrent le Sanhédrin et envoyèrent chercher les apôtres. Les huissiers, ne les trouvant pas dans la prison, en firent rapport. « Nous avons trouvé la prison fermée avec toute sûreté, et les gardes se tenant aux portes. Mais, ayant ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Versets 22-23. À l'ouïe de ces paroles, tous ces dignitaires religieux furent en perplexité, ne sachant ce que cela deviendrait, verset 24. Jamais ils ne s'étaient trouvés aux prises avec de semblables difficultés. S'ils avaient eu un peu de sagesse, ils auraient abandonné la lutte, mais leur orgueil ne le leur permit pas. Sur ces entrefaites, quelqu'un arriva et leur dit, « Voilà, les hommes que vous avez mis en prison sont au temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant avec les huissiers s'en alla et les amena sans violence, car il craignait d'être lapidé par le peuple, versets 26 et 27. Ils craignent le peuple, mais pas Dieu auquel ils sont opposés. Si leur vie n'avait pas été en danger, ils n'auraient pas craint, ils auraient agi envers les apôtres selon la méchanceté de leur cœur. Mais il n'y avait point de crainte de Dieu devant leurs yeux, comme dit la parole en Romains 3, verset 18. Les apôtres comparaissent devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur leur dit, « Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. » Verset 28. Il est vrai qu'ils avaient défendu aux apôtres de parler du Seigneur, chapitre 4. Mais les apôtres ne s'étaient pas engagés à obéir, au contraire, ils leur dirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu, car, pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. » Versets 19 et 20. Ces hommes ne se rendent pas compte qu'ils usent d'une autorité qu'ils ne possèdent pas. Autrefois, ils auraient pu interdire d'enseigner contrairement à la loi de Moïse. Mais maintenant, la loi est mise de côté comme moyen d'obtenir la vie. Elle est remplacée par la grâce qui donne la vie aux croyants et pardonne le pécheur, grâce manifestée par le Christ que les chefs religieux ont rejeté. Ils se plaignent de ce que les apôtres, par leur enseignement, veulent faire venir sur eux le sang de Christ, qu'ils appellent cet homme. Ils ne veulent pas se souvenir que pour contraindre Pilate à le crucifier, ils s'écrièrent « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Matthieu 27, verset 25. Le méchant est toujours prêt à accuser les autres des malheurs qu'il s'est attirés lui-même. voyant les actes de puissance accomplis au nom de Jésus et les résultats de ce qu'ils appellent votre doctrine, leur conscience était probablement mal à l'aise. Pour la décharger, ils n'auraient eu qu'à confesser leurs péchés, se repentir. La grâce s'offrait à eux comme à tous, mais ces malheureux n'en étaient pas là. Sous le poids du sang de cet homme qui était leur Messie, le Fils de Dieu, ils persistent dans leur opposition à Dieu. Comme réponse, les apôtres précisent, en l'accentuant, ce qu'ils leur ont déjà dit au chapitre 4, de manière à faire comprendre à ces chefs religieux leur culpabilité d'avoir mis à mort le Seigneur. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, disent-ils. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir, le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Et nous, nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Versets 30 à 32. Témoignage clair et puissant de la grâce de Dieu envers son peuple. Au lieu de demeurer sous la culpabilité du sang versé par leur haine contre Christ, la repentance et la rémission des péchés leur sont offertes s'ils croient en celui qu'ils ont crucifié, mais que la puissance de Dieu a élevé au titre de prince et sauveur. Ils avaient devant eux un témoignage complet de ce fait merveilleux, savoir les apôtres et le Saint-Esprit venus du ciel à la suite de la glorification de Jésus. Le Seigneur l'avait dit à ses disciples en parlant du Saint-Esprit, « Celui-là rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement vous êtes avec moi. » Jean 15, versets 26 et 27. Aveuglés par le besoin de maintenir leur propre importance et de se justifier d'avoir mis à mort le Seigneur, le double et divin témoignage ne les touche pas. Un sage conseil, versets 33 à 42.
Lecture de la parole. Mais eux, ayant entendu ces choses, frémissaient de rage et tenaient conseil pour les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir les apôtres pour un peu de temps. Et il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à vous-mêmes par rapport à ces hommes, et voyez ce que vous allez faire. Car avant ces jours-ci, Teudas se leva, se disant être quelque chose, auquel se joignit un nombre d'environ 400 hommes, et il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent dissipés et réduits à rien. Après lui s'éleva Judas le Galiléen, au jour du recensement, et il entraîna à la révolte un grand peuple après lui. Lui aussi a péri, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous dis, ne vous mêlez plus de ces hommes et laissez-les, car si ce dessein ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez les détruire, de peur que vous ne soyez même trouvés faire la guerre à Dieu. » Et ils furent de son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils leur enjoignirent, après les avoir battus, de ne pas parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Eux donc se retiraient de devant le Sanhédrin, en se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus comme le Christ dans le temple et de maison en maison.
Lecture de l'étude. Non contents d'être responsables du sang innocent, ces chefs veulent encore ajouter à leur culpabilité la mort des apôtres. Ayant entendu ces choses, ils frémissaient de rage et tenaient conseil pour les faire mourir. Verset 33. S'ils avaient frémi à la pensée de leur péché, ils auraient trouvé le pardon en celui qu'ils avaient fait mourir. Mais, endurcis par leur orgueil, ils chargent leur conscience d'autres crimes. Cependant, il se trouvait au milieu d'eux un homme sur lequel les paroles des apôtres semblent avoir confirmé que la main de Dieu pouvait agir dans l'œuvre dont ils étaient témoins. C'est Gamaliel, pharisien, docteur de la loi, honoré du peuple et au pied duquel Saul de Tarse avait été instruit. Acte 22, verset 3.
Je suis juif, né à Tarse de Cilicie, mais élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, selon l'exactitude de la loi de nos pères, étant zélé pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui.
Il ordonna de faire sortir les apôtres pour un instant, et tint devant le Sanhédrin un discours, versets 35 à 37, dans lequel il conseilla de prendre garde, de ne pas s'exposer à faire la guerre à Dieu. Il cita l'exemple de deux hommes mis à mort pour avoir entraîné à la révolte leurs partisans qui furent dispersés parce qu'ils accomplissaient une œuvre mauvaise. « Ne vous mêlez plus de ces hommes, ajouta-t-il, et laissez-les, car si ce dessein ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez les détruire, de peur que vous ne soyez même trouvés faire la guerre à Dieu. » C'est 38-39. Il y avait chez Gamaliel la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ces préceptes auront une bonne intelligence. Psaume 111, verset 10. Cette crainte l'empêchait de partager la haine qui caractérisait les autres membres du Sanhédrin. Dieu se servit de lui pour délivrer ses serviteurs des mains de leurs adversaires. Tous se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils leur enjoignirent, après les avoir battus, de ne pas parler au nom de Jésus et les relâchèrent, verset 40. Leur désir de ne pas faire la guerre à Dieu était peu profond, puisqu'ils firent battre les apôtres et leur renouvelèrent la défense de prêcher au nom de Jésus. Ils aggravaient leur culpabilité et, dans leur aveuglement, marchaient au-devant des terribles jugements de Dieu. Les coups, les menaces, la défense de parler au nom de Jésus n'avaient aucune influence sur les apôtres, sinon qu'ils se réjouirent d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus comme le Christ dans le temple et de maison en maison, versets 41-42. Ils se montraient ainsi les disciples d'un Christ victorieux, quoique rejetés. La puissance de l'Esprit-Saint les soutenait pour les affranchir de la crainte des hommes. Il en sera toujours ainsi pour ceux qui marcheront dans le chemin de la simple obéissance au Seigneur, en ne craignant que de lui déplaire. Nous sommes privilégiés de pouvoir rendre témoignage sans subir les persécutions qu'ont endurées les apôtres et tant de croyants après eux. Mais notre fidélité est-elle en rapport avec les avantages dont nous jouissons? Le monde n'aime pas plus le Seigneur aujourd'hui qu'alors, mais il reste plus indifférent à ce qui caractérise la fidélité chrétienne. L'ennemi se sert de cette indifférence qui laisse chacun libre de penser, comme il l'entend, à l'égard des choses de Dieu pour attirer les rachetés dans le courant du monde, tandis que la persécution les a repoussés. Pour éviter la mondanité, nous avons besoin de l'énergie spirituelle qui caractérisait les chrétiens lorsqu'ils enduraient les persécutions. La crainte de la désapprobation ou d'un sourire moqueur, si nous confessons le nom du Seigneur, nous effraie et nous empêche de lui être fidèles tout autant et plus que les coups, la prison ou le martyre de jadis. Cependant, ce que le Seigneur a dit est vrai pour tous et pour tous les temps. Quiconque me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, versets 32 et 33.